Et bonjour à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match entre Le Havre et le PSG. Un match qui, comme on l'avait annoncé, se déroule à une heure un petit peu soporifique, on va pas se mentir, l'heure de la digestion pour beaucoup d'entre nous. Un match qui, cependant, grâce à la défaite de Nice à Nantes hier, permet au PSG de prendre 4 points d'avance au classement et de préserver sa place de leader. Avant qu'on commence les grands titres, petit tour de table comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match les gars pour commencer? Et salut à tous dans le chat.
Qui commence?
Soura? Bah Soura logiquement ouais. Soura,
Bah,
Basto et Rico.
salut à tous. Ouais, c'était quand même un bon match dans l'ensemble par rapport au Paris Saint-Germain, parce qu'ils étaient réduits à 10 très tôt dans le match, et ça, c'était quand même une donne importante qu'il fallait gérer. Mais finalement, on a été très solide défensivement, même s'il y a quand même eu beaucoup de déchets devant le but par rapport au Havre, qui sont un petit peu mal payés sur cette rencontre. Mais dans l'ensemble, comme tu l'as dit, Tonton, c'est une victoire importante parce qu'on prend 4 points d'avance sur le GC Nice, et ça nous permet de prendre un petit peu de confiance en championnat notamment.
Basto.
Ouais, bah écoute, les premières minutes avance rouge, on était parti pour un match du dimanche à 13h, comme on les aime, une équipe de Paris qui faisait un peu n'importe quoi, une équipe adverse qui joue un peu son va-tout. Peut-être qu'heureusement il y a eu ce rouge pour donner un peu d'intérêt à ce match, ne serait-ce que pour voir la prestation de Tenas, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça a peut-être donné un peu d'intérêt à ce match, ça nous a obligés à jouer différemment. Donc à l'arrivée, c'était un match un peu bizarre. Un peu stressant aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Paris avoir aussi peu le ballon et se faire peur, mais à l'arrivée, un match qui était plutôt sympathique, même si le match était faible en soi.
Rico.
Ouais, c'est compliqué. Bon, il y a quelques enseignements quand même à tirer, mais c'est vrai que c'est un bon vieux match de 13h. C'est pas évident de battre déjà le Havre cette saison, encore moins chez eux et encore moins à 10. On a réussi à le faire. Donc non, c'est bien. Et je trouve qu'il y a, bon, on y reviendra notamment sur Tenas, mais il y a quand même des choses à dire sur ce match. Et puis on prend 3 points. On a une gâchette en plus par rapport à Nice, Nice qui a perdu face à Nantes. Donc c'est bien.
Un match, oui, un petit peu compliqué. Et surtout, j'allais dire, le grand perdant, il s'appelle Keylor Navas. C'est dommage qu'il soit blessé au dos parce que bah, pour une fois, il aurait pu jouer sur ce match-là. Malheureusement pour lui, on abordera le sujet plus tard. Bah, Arnaud Tenas, bah, lui, a sa chance. Et pour le coup, je pense qu'il l'a saisi. Je pense que le chat a l'air plutôt de cet avis. Et justement, ma première grande question, enfin, mon premier grand thème de ce live, et bah, comme d'habitude, on va faire petit tour de caméra. C'est Soura qui commencera. Et justement, ma première question, c'est, enfin, premier plutôt titre de ce live, c'est un PSG qui a beaucoup souffert en début de match, une annonce un peu catastrophique, il faut le dire. Fabian Ruiz se blesse à la 6e minute, Gigio Donnarumma sort avec un carton rouge, ce qui te force à 2 sessions de changement à la 10e minute, donc il ne te reste plus qu'une pour tout le match, et ce qui t'oblige à faire tes 3 changements d'un coup. Qu'est-ce que bah, vous avez pensé justement de ces 10 premières minutes bien angoissantes, les gars?
Ah, pour le coup, c'était vraiment catastrophique. Pour le coup, je pense que c'est la pire entame de match de la saison pour le Paris Saint-Germain. T'as été pressé, t'as été pris à la gorge par le Havre qui finalement n'a pas démérité. Hein. Ils ont joué avec leurs armes, ils n'ont pas essayé de mettre le bus. Ils ont vraiment essayé de faire le jeu face au Paris Saint-Germain. Et malgré que ce soit un Paris Saint-Germain sous l'ère Luis Enrique où tu peux quand même être un peu effrayé, bah non, ils ont essayé vraiment de venir sur la moitié de terrain adverse du PSG. Et pour le coup, par rapport à Fabian Ruiz et Donnarumma, déjà Fabian Ruiz, moi je suis assez inquiet pour le coup pour sa blessure parce que le ralenti où on voit la tête qui vient et tu vois que le bras de Fabian Ruiz il va un peu violemment vers le haut, donc je suis un peu inquiet pour la blessure qu'il pourrait avoir. Et pour le coup, c'est sûr que là l'entame de match, au-delà de même d'être catastrophique, tu perds un joueur qui était performant sur les dernières semaines. Ton gardien n'est plus du tout en confiance et ça c'est un problème parce que Donnarumma, on sent que c'est un joueur qui marche à la confiance et là ça devient compliqué. Et tu aurais même pu craindre le pire avec une ouverture du score côté Havrais. Mais malheureusement, je pense que malgré qu'on ait été très dominé, sur ce temps faible-là, on a réussi à bien le gérer. On n'a pas pris le but. On n'a pas été grandement mis en danger offensivement par le Havre. Mohamed Bayo, certes, en pivot et dos au but, il était assez dangereux et techniquement aussi, dans la conservation du ballon, c'était très intéressant. Mais dans l'ensemble, on n'a pas trop été mis en danger sur ce temps faible.
Basto, qu'est-ce que tu as pensé justement de ces 10 minutes de l'angoisse, si on peut les appeler comme ça?
Les 10 minutes, ouais, les 10 premières minutes, ouais, c'est. Ruiz, effectivement, mais bon, c'est pas grave, on a Moscardo qui arrive, ouais, un joueur qui est dans le pire 1% en passe progressive à son poste, tout va changer dans la conduite de balle, c'est pas grave. Non, le pauvre Ruiz, au moment où Emery est blessé, où il peut en profiter pour glaner du temps de jeu, il se pète et à mon avis, a priori, il a été envoyé à l'hôpital en criant de douleur. Donc à mon avis, ça a l'air sérieux, ça sent quelque chose de cassé. Si, enfin, une opération, à mon avis, on ne le revoit pas avant quelques mois. Et avant ça, on avait quand même une grosse occasion aussi pour le Havre avec Soler qui sauve sur la ligne, Donat qui sort vite dans les pieds et Soler qui sauve sur la ligne. On voyait qu'il y avait un manque de complète communication de notre défense, que ce soit Soler à gauche et Mukiele Danilo, notamment sur le 6 mètres, on voit qui amène le rouge, on voit Mukiele faire un peu n'importe quoi. On en reparlera, Mukiele n'a pas fait un gros match ce soir en défense. Après ça, voilà, on s'est dit, avec ce rouge, le pauvre Barcola qui sort aussi, qu'on a envie de voir jouer, et il n'a droit qu'à 8 minutes ce soir. C'est mince, ça va être long. Et finalement, comme l'a dit Souran, on a retrouvé derrière un peu de maîtrise. On était même mieux les minutes qu'on suivit ce rouge, jusqu'à la deuxième mi-temps qui est un peu plus compliqué, mais on y reviendra aussi tout à l'heure peut-être.
Rico ?
Ouais, ça a été 10 minutes compliquées. Alors, Donnarumma est totalement fautif, c'est clair, mais la défense ne l'a vraiment pas aidé. Pour le coup, Mukiele, on se demande ce qu'il fait. Maintenant, c'est un peu la conséquence de ce qui se passe avec Donnarumma sur ses derniers matchs où on sent qu'il commence à perdre un peu pied, à perdre un peu en termes de confiance. Et au final, sa sortie, elle est totalement ratée. Il y a eu ce sauvetage aussi de Soler, c'est vrai, qui a globalement fait un bon match. Au final, il dépanne vraiment bien, lui, pour le coup, à gauche et à droite. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et c'est vrai que même si le Havre ne démérite pas, globalement, j'ai trouvé qu'on a quand même été solide défensivement. On a joué quand même tout le match à 10. Et au final, je trouve que les temps faibles qu'on a eus n'ont pas été… Il n'y en a pas eu énormément. Et le Havre n'a pas forcément été super dangereux non plus. Il y a eu 2-3 gros arrêts de tenace. Mais tu regardes au final sur les stats, le Havre finit, je crois, avec une trentaine de tirs, hein, 25 tirs, un truc comme ça. Ils ont fait énormément de tirs. Il y a eu pas mal d'occasions qu'ils auraient pu mieux jouer. Et au final, je trouve qu'on a plutôt bien défendu, on a plutôt bien géré ces temps faibles-là, avec Danilo notamment, qui a très très bien défendu, et puis Tenas qui a fait les arrêts qu'il fallait au bon moment. Donc non, c'est bien, moi je suis plutôt content, surtout parce que ça montre quand même une force collective de ce groupe qui montre quand même qu'ils ont envie de jouer ensemble, de faire les efforts ensemble. Pour gagner un match comme ça, aussi compliqué, à 10 tout le match au Havre, qui est vraiment une équipe difficile à jouer en Ligue 1, il faut le faire à 13h, post-Ligue des Champions. Tu viens de jouer Newcastle il y a 3 jours et tu te retrouves à 10 dès le début du match. Et au final, tu ne prends pas de but. Tu ne prends pas de but, tu en mets 2. Tout le monde a été là pour tout le monde. Et on voit avec les images aussi à la mi-temps où tout le monde est là pour Tenas, à la fin du match aussi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un collectif. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le match le plus académique qu'on a fait, mais on a pris 3 points, il fallait le faire et bon nombre d'équipes ne l'auraient pas fait.
Pour te répondre, j'ai vérifié, il y a 22 tirs du Havre, donc tu n'étais pas si loin. C'est vrai que le Havre a beaucoup tiré, mais tu as 7 tirs cadrés, donc tu as pas mal de tirs cadrés et de tirs non cadrés. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Le Havre aurait pu avoir plus de chance, on aurait pu en avoir plus de malchance. Tenas fait les bons arrêts aussi, il faut le dire. Et ça me permet justement de me mener à la prochaine question de ce live, et je la pose aussi bien aux intervenants qu'aux personnes qui sont dans le chat. Est-ce que pour vous, justement, Gigio Donnarumma commence pas à être un petit peu en danger quand même? Et cette fois, je vais commencer à l'inverse, et c'est Rekoba qui va commencer.
C'est compliqué, on va pas se mentir, on va dire que non, parce que y a quand même une histoire de statut. Gigio Donnarumma, ça reste un gardien international, ça reste le numéro 1 cette saison. Mais moi, j'ai envie de dire que si, parce que Tenas, mine de rien, donne des garanties au pied déjà, ce que Donnarumma ne donne pas. Et pour un jeu et des consignes comme celle de Luis Enrique, c'est quand même mieux d'avoir un gardien qui est plus adapté pour jouer au pied. Maintenant, sur sa ligne, il a été bon aujourd'hui, mais c'est son premier match en professionnel. Donc, c'est compliqué quand même de se dire, de se projeter et de se dire que, admettons qu'on le mette par exemple face à Dortmund, il va faire un grand match. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il a su saisir sa chance sur ce match-là. Je pense que mine de rien, ça plante quand même une petite graine dans la tête de Luis Enrique, qui sait qu'il peut avoir déjà de meilleures garanties au pied et que mine de rien, sur sa ligne et aussi dans les airs, il a été bon. Belle qualité de réflexe aussi. Donc mine de rien, il a quand même marqué pas mal de points. Maintenant, je pense que c'est encore trop tôt pour remettre en question le statut de Donnarumma. Mais pour moi, si Donnarumma continue comme ça, c'est clair qu'il faut, il faut passer la main.
Basto, t'en penses quoi?
Un peu comme Rico. Alors, Tebas, ce n'est pas son premier match pro, c'est le premier match de haut niveau. Il a fait des matchs en deuxième division espagnole avec le Barça B et il a fait une quinzaine de sélections avec l'équipe d'Espagne Espoir, notamment l'Euro Espoir. Donc, c'est des matchs pro.
Et des U19.
C'est son premier match en première division. J'ai beaucoup aimé son entrée au-delà du jeu au pied. Quand on nous en avait parlé qu'il était bon pied. On l'a vu notamment dans certaines séquences où il joue sur Danilo qui lui remet. Il n'hésite pas d'avoir le bon moment pour ensuite faire la passe de 30-40 mètres. Quand il faut jouer court, il le fait. Et s'il faut jouer plus long, il le fait. Donc ça, on le savait, c'est très intéressant. Et même sur sa ligne, je trouve qu'il a eu des arrêts de goal modernes. Tu vois, Donnarumma, c'est un peu le goal très très fort sur sa ligne, mais un peu à l'ancienne. Tenas, l'arrêt du pied qui fait le double arrêt qui fait
l'arrêt du pied.
Ouais. Et celui réflexe un peu, on aurait dit Neuer, tu sais, il a un pied comme ça, une main comme ça aussi, on aurait dit des arrêts de goal modernes. Maintenant, effectivement, on a vu beaucoup de gardiens rentrer comme ça, dans des contextes comme ça, être très bons, et puis derrière ne pas confirmer, et voilà, il a fait un gros match. Maintenant, quel est son niveau moyen, c'est une autre question. Et pour le moment, je ne pense pas qu'il mette en danger dès maintenant Donnarumma. Maintenant, j'espère que ses concurrents, il y a que... Parce qu'on nous disait que c'était Navas numéro 2, Tenas numéro 3. Mais alors, si tu remets en concurrence Donna pour Navas, qui lui aussi n'amenait pas fort jeu au pied, qui lui aussi est plutôt un goal à l'ancienne, ça ne sert à rien. Donc voilà, Tenas, à revoir. On le verra déjà contre Nantes, je pense. À part si Navas, miraculeusement, n'a plus mal au dos, ce qui est possible aussi. Mais voilà, Tenas à suivre. Donnarumma, évidemment, il faut ouvrir le dossier. On l'avait dit, je l'avais dit après Monaco. J'avais dit qu'on était dur avec lui, qu'on se mettait tout de suite sur sa première bourde, mais que si derrière il lâchait comme après Madrid où il avait fait une série de bourdes et qu'il le refaisait cette année, on verrait. Bah, il en fait une contre Newcastle, il en refait une ce soir. Donc forcément, au bout d'un moment, tu te dis ça arrive deux fois en 3 ans. Il va falloir, si ce n'est pas Tenas, chercher sûrement un gardien pour l'année prochaine qui corresponde au profil d'Henrique. Ouais.
Je ne vais pas me prononcer à ce sujet. Soura, justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, Gigio est en danger avec ce qui se passe notamment et l'émergence de Tenas qui, il faut le rappeler, va jouer aussi le week-end prochain avec le carton rouge de Gigio?
Je pense pas que Donnarumma soit vraiment en danger parce que j'ai envie de voir ce qu'Arnaud Tenas peut donner sur des matchs à enjeu. Et pour le coup, Donnarumma, il a quand même su répondre dans certains matchs à enjeu, notamment même s'il a fait une erreur face à Monaco. On les a vus certains arrêts, Newcastle certaines parades aussi. Qui étaient, et Newcastle aussi, des arrêts qui étaient très importants. Mais maintenant, le problème qu'il peut y avoir pour Donnarumma, c'est que sur le match d'Arnaud Tenas, il gagne des points, mais des points très importants pour Luis Enrique. Le premier but du Paris Saint-Germain, ça vient d'une relance d'Arnaud Tenas. Donc techniquement, c'est un gardien qui correspond, on va dire, au grand point à la tactique et à la philosophie de jeu que veut prôner Luis Enrique. Et si un Donnarumma, sur les prochaines semaines, prochains mois, n'arrive pas à s'améliorer, un Luis Enrique, il peut être très, très radical sur ses choix et décider de mettre Arnaud Tenas en tant que titulaire. Et ça ne va pas du tout le déranger de le faire. Certes, tu pourrais avoir un Donnarumma qui pourrait plonger moralement. Ça, c'est possible. Mais au bout d'un moment, on est au Paris Saint-Germain, un club qui veut être champion chaque année, qui veut jouer les gros tableaux en Ligue des Champions. Si tu as, dans ta philosophie de jeu, tu as un gardien qui correspond à tes points, qui pour son premier match en première division reste très bon et nous donne une belle prestation sur ce premier match, bah déjà face à Nantes, il va avoir aussi l'opportunité de vraiment bien s'affirmer en tant que gardien numéro 2, puisque je pense que Keylor Navas, ça va être un peu compliqué de le voir sur le terrain avant un petit moment, je pense. Mais en tout cas, il va vraiment falloir surveiller ça. Et Donnarumma, je pense qu'il a des questions à se poser. Parce qu'en Italie, il n'a pas de concurrence. Mattia Perin, c'est plus ça. Il n'a pas forcément de concurrence. Mais pour le coup, un Arnaud Tenas peut lui mettre cette petite concurrence, un petit coup de coude. Hey, regarde, je suis là, je suis à côté. Regarde mon premier match en première division, gamin. Je peux te mettre sur le banc si j'en ai envie.
Et il faut rappeler aussi, pour aller dans le sens de ce que dit Soura, il faut rappeler que Luis Enrique a déjà dégagé David De Gea, titulaire de la sélection, bien plus fort que Unai Simons, parce que Unai Simons avait un jeu au pied qui correspondait plus à ce qu'attendait Luis Enrique. Donc je ne dis pas forcément que Gigio va forcément quitter sa place, mais selon le match que va faire Tenas derrière contre Nantes, s'il répond à ce que demande Luis Enrique, ballon au pied et sur la ligne, Gigio, il y a peut-être moyen qu'il s'inquiète, non pas à court terme, mais déjà aussi sur le long terme, comme vous l'avez dit, on parle notamment le mercato. Mais on reviendra justement à cette séquence, dès qu'on aura terminé nos grands titres, on répondra à quelques questions que j'ai sélectionnées justement. Et ça nous amène un peu à notre dernier sujet avant qu'on fasse les top et flop et avant qu'on réponde à vos questions Donc ça ne se termine pas tout de suite quand même, on a un petit peu de temps. Et vu qu'on a fait un peu la mi-temps de ce live, j'allais vous rappeler, pour ceux qui sont présents, que ce serait quand même super de liker ce live. Ce serait dommage que je fasse appel aux méthodes sombres que j'ai utilisées la dernière fois pour vous faire liker, pour ceux qui étaient présents lors du dernier live. Donc je compte sur vous pour nous aider à développer un maximum cette chaîne. On s'est embêté à changer le logo, comme vous avez remarqué. C'est peut-être parce qu'on veut se faire un peu plus remarquer. Et justement, maintenant, pour aborder l'avant-dernier sujet de ce live, je vais cette fois reprendre le contrôle qu'on avait initialement, et c'est Soura qui commencera. Est-ce que, bah, justement, ce PSG, bah, une fois le but marqué à 10 contre 11, n'a pas plutôt cherché à conserver le ballon et le score plutôt que de chercher à marquer le deuxième but?
Bah, pour le coup, je pense que c'était ça, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'incursions du Havre dans la défense parisienne qu'ils ont réussi à contenir, notamment avec un Danilo Pereira qui était très solide. Et un Nordi Mukiele, même s'il était en difficulté, on l'a vu qu'il était capable quand même de couvrir dans la profondeur. Et ça aussi, c'était important. Maintenant, le problème un petit peu de ce PSG-là, c'est que certes, tu veux conserver la balle. Là, tu avais le Havre en face de toi. Mais si jamais tu as une optique de vouloir conserver un score face à une équipe qui est beaucoup plus, qui a des qualités... des joueurs qui sont beaucoup plus forts et qui peuvent qui peuvent faire des différences par eux-mêmes, ça peut être un peu plus compliqué. Quand tu vois le recrutement, et ça a été dit dans les commentaires, quand tu vois le recrutement qui a été fait par la direction parisienne, tu n'as aucun joueur au milieu de terrain qui peut réellement répondre et correspondre à ce que veut un Luis Enrique. Toute proportion gardée, mais tu n'as pas un Iniesta ou Xavi pour pouvoir conserver et garder le tempo du jeu. Certes, un Vitinha, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui, balle au pied, va t'apporter énormément dans sa course. Par sa course, par ses déplacements, c'est pareil pour Ali Kangin. Déjà, Ali Kangin, c'est même pas un milieu de terrain, c'est un ailier droit à la base. Et je pense que c'est là où il pourrait être le plus dangereux et le plus entreprenant. Mais maintenant, il faut vraiment voir ce que tu vas essayer de faire pour le mercato hivernal. Parce que je vois des Fofana, je vois des Khéphren Thuram. Mais Khéphren Thuram, c'est un box-to-box. C'est pas un joueur créatif. Donc, pour moi, il faut aller chercher d'autres profils. Alors, je vois qu'il y a que le PSG se relancerait dans la course pour Florian Wirtz. Pourquoi pas Mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut pour le Paris Saint-Germain, un Florian Wirtz. Je pense qu'il faudra vraiment pour le mercato hivernal, et notamment pour la deuxième saison de Luis Enrique, si jamais il venait à rester, ben je pense qu'il va vraiment falloir faire très attention et bien réfléchir aux choix que tu vas prendre. Parce que sinon, autant dire à Luis Enrique, bon bah, Lucho, en fait, on va te prendre des recrues, mais il va falloir que tu joues en contre-attaque fluide. C'est comme ça, chef. Sinon, ça va être compliqué pour toi.
Basto?
Ouais, à l'arrivée, on a le 39% de possession. Petite info, c'est le pire pourcentage sous QSI en Ligue 1 de possession de balle. Donc, si on a cherché à garder le ballon et la maîtrise, on n'y a pas vraiment réussi. Non, je pense qu'on a eu plusieurs phases, en fait. On a eu cette phase où on se retrouve à 10 et on n'est pas trop en danger. C'est nous qui sommes dangereux en contre-attaque, même si on laisse beaucoup le ballon. On a une deuxième phase où Enrique demande à ses joueurs d'avoir plus de maîtrise quand même. En fin de première mi-temps, on voit qu'on tente, il le demande, on le voit sur le banc. Et derrière, on voit, on commence à faire un peu plus de passes, on est un peu moins dangereux, mais on est toujours assez solide. Et en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que c'est juste le naturel qui reprend le jeu, c'est qu'on n'a pas les joueurs qui sont habitués, qui savent vraiment maîtriser ce ballon. City, je suis sûr que City se retrouve à 10 contre 11, ils gardent 80% du temps le ballon, ça ne change pas leur pourcentage de possession. Nous, on passe de 70 pour nous à 70 pour l'adversaire avec un joueur en moins. Donc là, on voit bien qu'on a des joueurs qui ont des réflexes de transition, qui ont des profils de transition et que tu ne pouvais pas faire autrement. Et donc Enrique a beau demander la maîtrise, on ne pouvait pas l'avoir et il l'a compris, parce que d'ailleurs il fait des changements qui vont dans le sens aussi de continuer à contre-attaquer derrière.
Bah, Rico, du coup
Ouais, je pense qu'ils ont tout dit, hein, là. Il n'y a plus grand chose à rajouter. Il va falloir s'ajuster. Bon, sur le mercato d'hiver, ça va être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez réticent par rapport au petit Brésilien là, donc, qui est annoncé. Oui, ça peut faire du nombre, ça peut être de la qualité. L'idéal, ce serait même de le prêter dans la foulée. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider là directement et ce n'est pas un profil différent par rapport à ce que tu as besoin. Et depuis le début de la saison, même si on a des hauts pourcentages en termes de possession sur certains matchs, la vérité, c'est qu'on n'est pas dangereux en phase de possession. Et dès qu'on est face à une équipe qui défend bien, on n'arrive pas à trouver des solutions. À chaque fois qu'on arrive à faire des différences, c'est quand on a un peu plus d'espace, quand comme on contre-attaque aussi. Là, ça a été le cas aussi sur ce match-là. On n'a pas des joueurs pour garder le ballon et ça saute aux yeux. Et même s'il y a des joueurs qui ont certaines qualités techniques comme Vitinha, Kanginli, etc., mais des fois, par moment, ça a du mal à garder la balle. Alors, Kanginli l'a très bien fait, je trouve, surtout sur la première mi-temps. Mais après, Kanginli, je trouve qu'il y a plus aussi un problème de gestion des efforts pendant son match. Parce que globalement, la première mi-temps est toujours bon, mais après, il est vraiment sur le déclin dans la deuxième. Mais Vitinha, c'est vrai que par moment, autant il est très, très disponible, autant des fois pour. pour garder la balle, il a vraiment du mal à donner un tempo correct au milieu du terrain.
Et l'idem en seconde mi-temps, malheureusement.
Ouais, à seconde mi-temps, ouais, parce que clairement, il y a une baisse de régime physique et ça se voit, il y a un manque de lucidité, etc. Alors qu'en première mi-temps, il a beau avoir 2-3 mecs sur le paletot, il arrive à s'en sortir. Donc non, on n'a pas les joueurs pour ça et ça se voit. Donc il va falloir attendre la saison prochaine et pouvoir avoir des joueurs qui ont un profil un peu plus adéquat. Parce que pour l'instant, le recrutement qui a été fait, mais c'est pareil pour le gardien qui n'est pas adéquat. C'est pareil pour Milan Skriniar qui n'est pas le joueur qui techniquement peut te permettre de relancer propre et d'avoir une maîtrise technique. Donc voilà, il y a trop de joueurs qui n'ont pas ce profil-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vois le nom d'Asensio passer. C'est pour ça que en début de saison, avec un Asensio en faux neuf, on avait un peu plus de maîtrise du ballon et on arrivait peut-être un peu mieux à jouer en phase de possession.
Et à quand enfin un milieu créateur bas, parce que Ugarte avec ballon, là, c'est ça enchaîne les mauvaises prestations avec ballon.
On viendra justement, j'ai sélectionné quelques questions dans le chat qui vont un peu dans le sens des questions auxquelles on n'a pas encore répondu sur le match, justement. Et bon, vu que Recoba s'est fait un peu spoiler la troisième partie, vu qu'il est passé en dernier, je lui propose de donner en premier ses top et flop et on inversera le sens des caméras.
Bon, on va commencer par les tops. Arnaud Tenas, forcément. Gros match, sa première, pas évident. On en a parlé longuement, donc je ne vais pas épiloguer. Mais pour moi, c'est le top de ce match-là. Danilo aussi, parce que si on ne prend pas de but, c'est aussi et surtout grâce à lui qui a vraiment bien défendu, qui a sauvé pas mal de ballons, qui a éteint pas mal de brèches. Donc franchement, très très gros match de Danilo. Et puis après, j'ai envie de mettre quand même un offensif à l'honneur, parce que mine de rien, on a eu des coups intéressants. Dembélé a été très juste, il aurait pu donner 2 passes D. Mbappé marque ce but quand même, qui est important. Très très beau geste. Il aurait pu mieux faire sur certains moments. Il y en a une deuxième où il marque, mais il est hors-jeu tout juste d'un rien. Et puis, il aurait dû donner une passe D aussi où elle n'est pas assez appuyée. Et puis, il y a aussi la transversale qu'il met avec le grand pont, puis la transversale où Vitinha la joue bien. Mais malheureusement, le défenseur revient bien sur Dembélé. Donc, je vais mettre quand même un offensif et je vais mettre Mbappé, je pense. Et puis, dans mes flops, je vais mettre Donnarumma, forcément, qui nous coûte ce match où on joue à 10 tout simplement toute la rencontre. Et je vais mettre Mukiele, que j'ai senti pour une fois, c'est rare, mais pour une fois un peu en dessous. Alors il a été un petit peu mieux quand Danilo et Mukiele ont inversé de position, mais globalement je l'ai senti quand même un petit peu en dessous. Et puis il y a ce but là qui est aussi de sa faute, donc je vais mettre un peu Mukiele. Et après, par contre, j'ai pas forcément de troisième flop. Ce serait très dur si j'en mettais un. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas été exceptionnels, mais ce serait dur de mettre un troisième flop, donc je vais m'arrêter là.
Belle réflexion.
Peut-être la rentrée de Kolo Muani qui n'a strictement...
Laisse-la moi.
Justement, j'allais dire, je sais que Basto prévoit ses tacles les plus assassins, et rien que pour ça, ça nous mérite un maximum de likes, donc faites ce que vous avez à faire, les mecs. Vous êtes 482. Je pense que l'objectif minimum, c'est 200. Donc... je pense qu'on peut le faire. Allez-y, les gars. Et vas-y, Basto, du coup, donne-nous tes top et flop.
Bon, top. Je ne vais pas être très original. Je vais aussi dire, évidemment, Tenas, évidemment, Danilo. Et puisque l'offensive, je vais dire le duo Dembélé-Mbappé, qui est à la fois flop dans la finition, parce qu'ils doivent nous soulager plus tôt. On souffle jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on marque ce deuxième but à la fin. On peut peut-être le marquer plus tôt s'ils mettent une de leur occasion. Mais en même temps, c'est dans un jeu comme ça, 10 contre 11, où les gens en transition, on voit qu'ils sont... Il n'y avait que deux que ça pouvait venir la lumière. Donc, c'est des top flops, mais plus top. Donc, ça va être mon troisième top. En flop, comme Réco, hein, les deux mêmes. Et je rajoute, parce qu'en plus, le peuple le demande dans le chat, Kolo Muani. Kolo Muani, au bout d'un moment, on lui trouve des excuses de « Ah, c'est pas son poste. Oh, il n'est pas libre. Oh, il est meilleur quand il rentre en cours de jeu. » Mais il est peut-être meilleur aussi parce que les adversaires sont fatigués et quand il fait un contrôle raté de 30 cm, il arrive quand même à récupérer le ballon avec sa vitesse. Là, il rentre dans les conditions plutôt bien pour lui. On joue que devant. La liberté d'être un peu sur le côté, un peu devant, il nous fait quoi? Ces trois premiers ballons, c'est deux contrôles foirés et une passe de poussin à Mbappé. C'est pas possible. C'est juste plus possible. Il va falloir... techniquement, là, il y a un problème. On le savait, mais je sais pas si c'est rédhibitoire, si ça peut s'améliorer. J'ai l'impression que malheureusement, c'est un peu son niveau. On verra.
Mais écoute, Soura, t'es top et flop.
En top, je vais mettre bien entendu Arnaud Tenas et Danilo Pereira, parce qu'ils ont été performants ce soir. Et en plus, à la base, ce n'est pas des titulaires. Donc là aussi, c'est un bon point à prendre pour eux. Et en flop, malheureusement, Donnarumma, parce que en l'espace de 5 secondes, j'ai cru que c'était Shawn Michaels. Donc, assez bizarre son match ce soir, malheureusement. Et en plus, il sort avec un rouge. Et je mettrais aussi Ouais, je mettrais quand même la rentrée de Colomouani parce que c'est quand même assez difficile. Sur certaines séquences, en plus, il y avait pas mal d'espace, notamment la passe qu'il rate pour Kylian Mbappé qui lui met pas bien dans la course. Donc, c'est difficile pour lui. Et je pense sincèrement que, ouais, tu as recruté deux attaquants, mais qui au final ne seront peut-être pas dans les plans de Luis Enrique. C'est ballot.
Moi, en ce qui me concerne, pour faire les tops et flops, je vais faire assez rapidement, vu que tout a été quand même assez dit. Logiquement, que je mets Danilo et Tenas dans les tops, surtout qu'il faut rappeler que Danilo n'est pas forcément un défenseur central de formation et qu'on sait que techniquement, il galère un peu à ce poste. Et en dernier, je vais mettre une petite surprise, Carlos Soler, qui se trouve être plus performant au poste de latéral remplaçant qu'au poste de milieu, poste auquel il est censé jouer de base. Et c'est quand même assez ironique de voir qui fait des performances de ce calibre en tant que latéral. Donc je ne dis pas non plus que Carlos Soler sera une réussite du Paris Saint-Germain à terme, on n'en sait rien. Cependant, à l'heure actuelle, il est intéressant de souligner que quand il doit jouer comme latéral et qu'il est remplaçant et qu'il rentre là dans ce genre de match, même s'il a commencé titulaire, on s'est compris, là j'ai bien aimé justement l'apport de Carlos Soler sur ce match et forcément je vais le mettre en top parce que quand il n'est pas bon, on lui a tapé dessus comme il faut. Et là, faut dire ce qui est. Il fait une prestation qui est convaincante par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc j'ai envie de le mettre justement dans les tops. Et avant de passer à mes flops, étant donné que vous m'avez pas mal cherché, je vais mettre ça. Et tant que ça n'augmente pas, je vais rester un petit peu là-dessus. Ah,
Ah,
j'avais
le
prévu
glitch,
que j'allais
le
employer
cheat
des
code.
méthodes très très sombres si je ne voyais pas plus de likes dans ma barre. Et malheureusement, quand je vois le nombre qu'on est, le nombre de likes qu'on reçoit, je me dis que en fait, vous regardez des choses que vous n'aimez pas regarder. Et c'est quand même un
Allez,
peu
je vais
dommage.
déposer mon like.
Merci Rico.
Le plus
Tous les
joli
soirs, vous
caché.
savez quoi faire. Et allez, maintenant j'arrête de vous traumatiser. Maintenant, je vais passer justement à ma casse flop. Pour passer à ma casse flop, je vais rejoindre Recoba sur Mukiele, qui est un joueur que j'aime beaucoup, que je suis depuis Leipzig, et qui, en ce qui me concerne, je voulais voir dans l'axe de la défense dans certains cas, et notamment dans ce genre de match. Et il faut dire ce qui est, Mukiele a totalement sa part de responsabilité sur le carton rouge que prend Donnarumma. Il est complètement passif, ne communique pas bien avec Donnarumma, laisse le joueur avrer s'insérer dans l'espace, qui oblige Donnarumma quand même à mettre le pied et à faire sa faute. Donc oui, c'est Donnarumma qui prend le rouge. Cependant, Mukiele a tout autant sa part de responsabilité et n'aurait jamais dû laisser passer une telle chose. En deuxième flop, logiquement, Donnarumma qui n'a pas fait son match, hein, il faut le dire hein, littéralement, et il a resté 10 minutes sur la pelouse et il est sorti. Et en dernier flop, non plus très original, mais forcément l'entrée de Randal Kolo Muani, qui, comme le disait très bien Basto, n'a pas d'excuse pour le coup. C'est un joueur qui rentre dans les meilleures conditions, l'équipe en face est fatiguée, il y a des espaces. On sait que c'est un joueur qui, en plus, peut récupérer des ballons et aller au corps à corps, entre guillemets, avec son physique. C'est dommage qu'il n'ait pas exploité justement cette fin de match pour briller en fin de match, malheureusement. Et maintenant, justement, je vais chacun son tour poser des questions aux membres de l'équipe avec des questions que j'ai sélectionnées justement dans le chat. Et la première, je vais la poser pour Basto parce que je sais qu'il sera ravi de l'entendre. Pour toi, c'est qui le MVP du match? Est-ce que c'est Tenas ou Danilo?
Pour moi, c'est Tenas pour, on va dire pour deux raisons. Déjà, parce que il rentre dans un quand même contextuellement, c'est très très dur. Premier match à Paris, en cours de jeu comme ça, pas chaud. Et il maintient là, il maintient, bon, au-delà de son jeu, on en a parlé, voilà, etc. Et deuxième raison, Danilo fait un très grand match. Mais le problème, c'est que Danilo fait souvent des très grands matchs d'une équipe de Paris qui subit, justement. Donc, c'est un peu c'est un peu comme si c'était une réponse à son propre problème, tu vois.
Totalement, j'entends le point de vue. Alors justement, la deuxième question, je vais la poser à Soura. Justement, Soura, pour toi, est-ce qu'il faut recruter un milieu créatif cet hiver? On est trop léger au milieu ou selon Luis Enrique, tout va bien au milieu? On a ce qu'il faut.
Alors, tout va bien au milieu, non. Là, c'est la langue de bois de Lucho qui a encore parlé. Mais recruter un milieu créatif en hiver, c'est bien. Mais comme je l'ai dit, tu vas prendre qui? Florian Wirtz, si tu décides de vouloir aller le chercher en hiver, par exemple, Leverkusen va te demander 250 millions parce qu'ils vont pas laisser un tel joueur partir en plein milieu de la saison. En fait, ça, il faudra faire attention au choix que tu vas faire. Tu peux pas prendre un milieu créatif en plein hiver. C'est impossible. À moins que le club soit vraiment très sûr de lui ou que le Paris Saint-Germain sorte une somme d'argent colossale, il n'y a aucun monde où un milieu créatif rejoigne un club ou parte même de son club en hiver. C'est très très dur. Donc pour le coup, je pense qu'il va falloir bricoler. Il va falloir trouver un milieu de terrain cet hiver, ça pourquoi pas, essayer de tenter un coup d'avoir un milieu de terrain qui a une belle qualité technique et une belle vision de jeu. Mais ce milieu créatif-là dont on a besoin pour le Paris Saint-Germain, ça sera pour l'été 2024. Parce qu'il faut prendre son temps dans la recherche du vrai profil idoine au Paris Saint-Germain.
Et la dernière question, justement, je vais la poser à Rico, même si je me la serais posée à moi-même, mais c'est pas poli. Tu fais l'échange et chacun rentre chez soi et les hippopotames seront bien gardés pour ceux qui ont la ref?
Non, mais ça c'est marrant, mais c'est comme la question aussi du mercato d'hiver, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'on peut aller chercher n'importe qui en plein mercato d'hiver. Mais malheureusement, comment tu
Non,
veux
je pense
faire
qu'il
un...
parle, il
Tout le
parle pour
monde
cet
voudrait.
été.
Non,
Je
mais
pense
bien
qu'il parle
sûr,
pour
mais
cet été.
oui, mais c'est de l'ordre du rêve. Donnarumma, vous avez vu dans quelles conditions il a quitté Milan. On va à Milan, il y a un jet de billets, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse faire un échange Donnarumma-Maignan? C'est impossible. D'aller chercher Maignan, oui, mais de leur refiler Donnarumma, c'est impossible. Maintenant, si Maignan ne prolonge pas, parce que je crois qu'il n'a pas encore prolongé, si je ne me trompe pas, là, oui, pourquoi pas. Changer de gardien, oui, pourquoi pas en prendre un cet été, pourquoi pas. Et Maignan, vamos, avec plaisir. Mais faire un échange Donnarumma-Maignan, non, c'est pas possible.
Juste, tonton, il y a Lloyd Banks qui dit Fofana de Monaco cet hiver. On a parlé de milieu créatif, bordel.
Alors justement, bah, regarde la question, bah, elle est pour toi. Thuram ou Fofana?
Oula. Oula. Alors, oula, c'est très dur. C'est la peste et le choléra pour moi, Thuram et Fofana. Entre un Thuram qui n'est pas du tout bon dans les duels, qui est un des pires milieux dans les
Allez, Rio,
duels,
ouais.
qui est très nonchalant et qui joue mine de rien assez latéralement. Et Fofana qui met quand même de l'impact, même si bon, j'en ai marre parce qu'il nous faut un milieu créatif. Je crois que je préfère quand même Fofana à Thuram. Mais c'est
Ok.
vraiment par défaut. Hein. Ouh.
Non, bien sûr, j'entends, mais je voulais te poser cette question piège et
Oui,
avoir ton
mais.
avis. Vas-y, Rico.
Non, parce que j'ai vu Mota et Maxwell sont arrivés cet hiver. Oui, mais c'est le mercato
Aucun sont dans
d'hiver,
le
c'est
milieu
un
créatif.
mercato d'opportunité. Non, mais juste, Mota et Maxwell sont des recrues d'opportunité. Ils étaient, Mota ne jouait plus à l'Inter. Maxwell, à ce moment-là, c'était une
Mota
doublure
était
au
titulaire.
Barça.
Ça. Mota était titulaire et
Non,
quatre.
non.
Si, si.
Non, non, non. Quand il vient chez nous, il
C'est
n'était pas
toujours plus
titulaire.
important. Ah bon? T'es sûr?
Non,
Maxwell
en
est
fait, il
titulaire.
a démarré. Si je ne me trompe pas, il a démarré la saison. Ensuite, il s'est blessé. Et depuis, il ne jouait plus. Et du
Et
coup, il est
Maxwell était
venu
numéro
à ce
3 à
moment-là.
son poste
Et
au Barça.
Maxwell est.
C'est ça.
Voilà. Donc là, oui, tu peux aller chercher ces mecs-là. Mais aujourd'hui, quel milieu créatif est remplaçant dans son club et pourrait venir? Et même son club en a sûrement besoin. Par exemple, à City, ils ont un banc où il y a des milieux créatifs. Mais est-ce que City va les lâcher? Parce qu'ils en ont besoin toute la saison aussi. Donc c'est toute la complexité. C'est ça qui est difficile.
Il y a des clauses. Il y a des joueurs avec des clauses, mais bon, est-ce que le club va péter des clauses en plein hiver? Ça me semble un peu compliqué.
Dernier club qui a fait ça, c'était le Barça avec Coutinho. Et on a vu ce qui s'est passé.
Non, après, il existe des joueurs bien moins chers que Coutinho qui ont des clauses, je te rassure, Soura, notamment des milieux de profil plus ibériques, mais je ne vais pas citer leur nom. Je pense que vous savez de qui je parle à force. Mais non. Alors justement, j'ai regardé s'il y a des derniers. Il y a qui comme milieu offensif qu'on peut recruter? Ben, c'est ça le problème, Flo. Par rapport à ça, c'est ce que dit Soura. Il faut que tu regardes dans les top clubs ou entre guillemets les bons clubs qui a un milieu qui a le profil qu'on cherche et qui a besoin de temps de jeu et qui va réclamer du temps de jeu et qui serait prêt à demander un départ dès cet hiver. Ça me semble un petit peu compliqué. C'est vraiment là. Alors ouais, c'est comme je dis, Maxence, tu reviens à péter des clauses. Quand tu parles de Dani Olmo ou Tchouaméni, des clauses à 80 millions, des clauses à 60 millions. Et même si tu arrives à péter les clauses, il faut que tu arrives à obtenir l'accord du joueur en pleine saison, en sachant que tu as l'Euro 2024 qui pointe le bout de son nez, et que ces joueurs, bah, ils sont archi titulaires dans leur club et qu'ils n'ont aucun intérêt à le quitter en cours de saison, en sachant que cet été, bah, ils pourront le quitter et garantir leur temps de jeu, bah, pour l'Euro 2024, en Allemagne. Donc oui, en soi, j'entends les joueurs qui ont des clauses qui sont tentables pour le Paris Saint-Germain et les deux joueurs qui sont cités, notamment Zubimendi et Olmo, sont bien entendu des joueurs qui m'intéressent. Mais est-ce que ces joueurs vont prendre le risque de quitter le club où, pour le coup, ils ont déjà des automatismes et où leur saison se passe plutôt bien déjà?
Bah, t'as des gens qui ont cité Griezmann. Et Griezmann, c'est pareil, il fallait le faire l'été dernier. Déjà, Griezmann, je crois qu'il avait une clause qui n'est pas très très chère. Mais Griezmann, il faut faire son salaire. Et là, le salaire de Griezmann, c'est pas des copecs, hein. C'est un très très gros salaire faudra composer avec. Moi, je dis pas non pour la piste Griezmann, qui pourra te servir pour 2, 3 saisons au top niveau. Mais tu vois aussi d'autres noms, par exemple un Odegaard. Mais jamais de la vie, Arsenal va vendre son capitaine Odegaard à un prix. Enfin, un club anglais, si vraiment tu veux faire partir son top joueur, faut mettre une somme d'argent, mais colossale en fait.
Qui plus est en
C'est
plein hiver, ouais.
en plein
Ouais, puis il y a la
hiver,
volonté
jamais
du club, il y a
partir.
la volonté du joueur aussi. Enfin, voilà, c'est pas FIFA, quoi.
Ouais, non, parce qu'après, c'est vrai que si on s'enlève les limites, les mecs, je veux dire, vous n'êtes pas ambitieux, quoi. Je vous vois, vous, non, mais pff, les mecs. Voyez plus haut que ça, je sais pas, aller chercher Kimmich, Pedri et De Jong. Voilà, là au moins t'as ton mitard et t'es tranquille, hein. ou Enzo Fernandez aussi. Pourquoi vous mettez des noms sans ambition alors vous mettez des noms impossibles? Quitte à mettre des noms impossibles, soyez ambitieux, les gars.
Thiago Alcantara, faut oublier, hein, ça fait un moment qu'il a la cave.
Thiago Alcantara, on a essayé de le recruter il y a 3 ans, finalement on a eu son frère à la place. Là déjà, c'est fatigant pour lui, il est un peu au rythme qu'on cherche. Alors Bruno Fernandez, pareil, je veux dire les gars, il faut qu'on parle de joueurs qui sont accessibles en plein hiver. Moi, j'ai rien contre les noms que vous mettez, mais ce n'est pas des joueurs qu'on arrivera à choper en hiver facilement. Je pense qu'il faut être un peu plus, comment dire, pragmatique et chercher des joueurs qui, justement, ne sont pas forcément des titulaires indiscutables dans leur club et qui auront, justement, un intérêt à bouger au Paris Saint-Germain pour avoir du temps de jeu, justement.
Alors, si le PSG, c'est pas Leipzig, alors ok, alors on va aller chercher Pedri, De Jong. Non, mais des fois, je vois des commentaires sans déconner. Oui, on va signer Bruno Fernandez, on va signer le capitaine d'Arsenal parce qu'on est le PSG, alors que déjà, on est personne, mais parce qu'on a l'argent, alors on fait ce qu'on veut. Ben, veut dire, Messi, on l'a fait signer, pourquoi? Parce que le Barça pouvait plus le payer. Neymar, on a payé une clause à 222. Donc voilà, faut pas abuser les gars non plus. Oui, il y a des joueurs, même si tout le monde nous disait on va jamais signer Messi, on va jamais signer Neymar, qui se sont fait parce qu'il y avait des opportunités. Voilà, c'est pas du tout le même contexte. Mais les gars, faut pas abuser non plus.
Voilà, de toute façon, c'est très bien. Les seuls top joueurs qu'on peut recruter, c'est des mecs comme Bernardo Silva qui ont donné une clause et une promesse de départ. Mais c'est, sinon, voilà, c'est tout.
Et encore, faut qu'il y ait une promesse de départ. Et c'est.
Voilà, ils lui ont mis une clause. Contraintes. Là, ils lui ont mis une clause pas trop haute, je crois.
Promesse de départ, tu connais, il y a un joueur, je ne vais pas citer son nom, tu vois, il est dans un club où on ne retient pas les joueurs, il est portugais, et tu as vu, genre, ça fait pas 3 ans que son club le retient, lui. Non, je n'ai absolument pas le seum, mais vous avez très bien compris de qui je parle.
Oui. Il y a Dylan qui demandait, pour nous quatre, si on sort de Ligue des Champions en perdant contre Dortmund, est-ce que c'est la pire saison sous l'ère QSI? Et moi, je voulais juste lui dire, non, rien ne sera jamais pire que celle de l'année dernière.
Mais des fois, je me dis, les gens, ils font exprès. Messi, Neymar, on vient d'en parler. Non, mais on vient d'en parler. Il y a un contexte, les gars. Il y a un contexte. Aujourd'hui, alors dis-moi aujourd'hui. Donc parce qu'on a signé Neymar, Cavani, Ibra, qui tu veux. Ok. Aujourd'hui, comment tu vas chercher Martino Odegaard? Voilà. Parce que je vois Pedri, Odegaard, etc. Qui sont des top jeunes, qui sont des joueurs hyper importants. Odegaard est capitaine. Comment tu vas les chercher? Ok, on a l'argent. Ok. Et encore, t'as le fair play financier, etc. T'as pas toutes les manœuvres que tu peux faire. Comment tu fais? Est-ce que Odegaard a envie de partir? Est-ce qu'il a envie de venir au PSG? Est-ce que Arsenal est prêt à le lâcher?
Tant de questions sans réponse. Mais en tout cas, je pense qu'on a pas mal développé les sujets justement qu'on voulait aborder pendant le live d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous dès mardi à 12h30 comme d'habitude pour les lives. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker un maximum ce live. Comme vous vous rappelez, on a le projet studio qui est en route. N'hésitez surtout pas à liker. Si vous voulez faire des dons, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur toutes nos plateformes. On est sur Amazon, sur Deezer, sur Spotify, sur tout ce qui s'écoute. Vous nous trouverez forcément. Et une dernière chose avant de partir, justement, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure, justement, pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse justement vous proposer du matériel et des lives de plus en plus qualitatifs. Merci en tout cas à Soura, Basto, Rekoba d'être là. Merci aux 541 personnes qui étaient là en live. Je vous ai tous vu, je sais que vous êtes là, donc n'hésitez surtout pas et n'oubliez pas de mettre un like en partant. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.